Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
C'est fini, c'est fini, c'est fini. Paris est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. Il est 18h tout pile. Et oui, vous le sentez, la musique de la Ligue des Champions, ça y est, ça monte. 24h dans 24h tout pile, parce que le match demain soir, c'est 18h à Budapest. On va se régaler en route pour la deuxième étoile. C'est tout droit, comme l'a dit Benoît Boutron, pendant des semaines et des semaines. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Alors là, on va tout
péter. Jamais été aussi près d'avoir raison, Jérôme.
Ce soir,
depuis
on
le mois
va
de novembre, on te le dit.
Tout péter, je suis surexcité.
Ah, ça se sent.
Ah ouais. Je suis surexcité. Je vais faire une émission, mais écoute, d'enfer.
Ah ouais, magnifique.
Et il vaut mieux, parce que quand vous allez voir le casting, il va falloir que je sois surexcité. Ouais. On est avec Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonsoir à tous et à toutes.
Ça va,
salut Jean-Mi.
Ça va, Jean-Mi?
Tout va bien.
Bon,
tout va bien.
Écoute, on est ravis. Et ça me tenait à cœur d'avoir ce casting-là, parce que il y a ces trois finalistes de Ligue des Champions.
Ah, bien sûr.
Jean-Pierre Papin.
Évidemment.
Salut JPP.
Salut Jérôme, salut Benoît, salut Jean-Mi.
Salut JPP, ravi de te retrouver.
Ah, on est content Jean-Pierre, hein, t'as vu, hein, ah, ça monte la pression, hein, c'est bon. Hein,
ouais, je vois ça, étoile. T'es excité comme un puceron.
Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, toi aussi, tu me disais ça, donc c'est
oui,
normal.
La Ligue des Champions quand même.
Ouais,
c'est sûr.
Il va envoyer une coccinelle, elle va la bouffer.
Messieurs, avant de démarrer justement, de faire un Rotten sans flamme spécial finale de la Ligue des Champions demain, 18h à Budapest, match à suivre en intégralité sur RMC. Ayons tous une pensée pour Brian Bergogneau.
Ah ouais,
on vient d'apprendre le décès de Brian Bergogneau, ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, 43 ans seulement. Donc une pensée à lui et à ses proches. Il était dans le staff de Didier Digard au Havre cette saison. On a
lui qui luttait
pour exactement
contre une maladie, contre le cancer. Il a eu un cancer il y a quelques années. Moi, je l'ai croisé plus d'une fois. C'était un gentil mec, vraiment, passionné de football. Il s'est accroché comme un dingue pour continuer d'occuper les fonctions au Havre en tant qu'adjoint. Donc une grande pensée, déjà je lui dédie l'émission, même si c'est rien. Je l'embrasse très fort, il va tous nous manquer. Et puis surtout une grande pensée à sa famille, parce
exactement
que les moments vont être compliqués.
Pensez à lui, à ses proches, à tous les joueurs qui l'ont côtoyé, tout le monde du foot qui doit être attristé ce soir. 18h02 sur RMC, on vous l'a dit, un Rotten sans flamme spécial finale de la Ligue des Champions. À 24h du coup d'envoi, à 19h, Rotten se chauffe. Doit-on s'attendre à une finale fermée? Vous allez voir, on a mobilisé tous nos correspondants. La cellule Paris Saint-Germain d'RMC est présente à Budapest. À 19h30, on parlera de la doublette Dembélé-Kvaratskhelia. Est-ce que la finale dépend d'eux? Pour tous ces débats, on vous attend au 32-16. On poursuit notre série avec des supporters emblématiques du Paris Saint-Germain. Jérôme, ce soir, on va accueillir Philippe qui sera en studio avec nous. Philippe, abonné au club depuis la création du Paris Saint-Germain. On va raconter toutes les anecdotes qu'il a avec ce club.
Ça
va être fantastique.
On a eu que des cadors tout au long de la semaine. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. On a commencé par Annick qu'on embrasse.
Ah oui, Annick.
Historique et... Bon, normalement, on doit finir en beauté.
Ah bah oui.
Normalement, c'est la crème de la crème.
Tout
donc,
à fait.
J'espère que le philo, il sera au rendez-vous.
Eh ben, on l'espère. À 18h30, un procès intéressant, toujours en lien avec cette finale de Ligue des Champions. On va faire le procès de tous ceux qui sous-estiment les individualités d'Arsenal. Il y en a dans la Dream Team. Donc, vous allez voir, ce sera un grand procès à 18h30. Et puis, notre jeu, c'est le dernier jour, Jérôme, pour s'inscrire à la liste des 26, la liste des 26 bleus qui partiront pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, RMC Radio Partenaire. Vous pouvez remporter jusqu'à 10 000 euros en cash net d'impôts. Soit vous gagnez 10 000 euros, soit vous gagnez le pack Coupe du Monde composé d'un vidéoprojecteur, le maillot des Bleus, un ballon officiel et la boîte Lego du trophée. Restez bien à l'écoute, l'alerte va retentir. Il faudra envoyer liste par SMS au 732-16. Direction Roland-Garros, retrouvez Eric Salio avec le match qui se déroule en ce moment entre Novak Djokovic. C'est le troisième tour d'ailleurs, Eric, hein, Novak Djokovic qui est sur le court.
Oui, bonsoir à tous. Un match qui a mis du temps à démarrer, mais là, ça commence à devenir sympa, presque sauvage. 2-7-0 pour Novak Djokovic, 6-4, 6-4, mais 3-0 dans le troisième set pour João Fonseca. Et il y a beaucoup de Brésiliens dans les tribunes. Ça nous promet une suite de matchs assez fabuleuse.
Ouais, et on sera avec toi, évidemment, Novak Djokovic, que l'on suit tout au long de cette rencontre. D'ailleurs, Moïse Kwame a été programmé à l'heure de la finale de la Ligue des Champions. Je crois que c'est ça, Eric, la mauvaise nouvelle pour Kwame demain.
Ouais, on le connaît sait pas, il jouera en troisième rotation après deux matchs féminins. Il peut commencer vers 15h, peut-être 15h30. Bon, s'il fait vite, il pourra assister au coup d'envoi.
Ah bah voilà, ouais. C'est une motivation supplémentaire pour Kwame. T'as raison, Eric.
Eric, tu t'es bien reposé hier. T'as posé le bonjour. Hein,
le sens du timing.
Bien fait gros, en fait, Kwame, hier.
T'as vraiment du pif, hein, quand même. C'est pour ça que t'es le meilleur.
Le jour où
la défaite de Sinner.
Ouais, exactement.
le match du tournoi avec Kwame.
Eric l'a manqué.
J'ai laissé Arnaud s'éclater.
Arnaud Valadon qui a été excellent. 18h05 sur RMC. Rotten sans flamme tout de suite, Jérôme. Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l'histoire.
Je reviens
te chercher.
Vitinha, peut-être le décalage avec Doué. Doué, faut y aller. Doué. Doué, t'es génial.
Je vous aime. J'ai plus de force. J'ai tout donné. Je tiens juste à vous remercier.
Je savais que tu m'attendais.
Parce qu'il y a tout seul. Vas-y, mon garçon. Le ballon piqué. La frappe et le but. La frappe et le but. C'est terminé. C'est fini. Paris sur le toit de l'Europe.
Mais la première, c'est l'histoire. Je ne suis pas intéressé à l'histoire. Je suis intéressé à gagner la deuxième. C'est ça, faire l'histoire.
Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre.
Les petits pas et la levée de la Ligue des Champions. Merci Paris. Merci Paris de cette soirée.
C'est fou ce qu'ils ont réalisé. Des émotions, on a envie, mais des émotions comme on a vécu ce soir, c'est des souvenirs à vie, quoi, de vivre ça comme ça.
Budapest, on arrive.
C'est l'événement demain sur RMC. Eh oui, le match que l'on attend depuis un an, le Paris Saint-Germain va disputer la troisième finale de Ligue des Champions de son histoire demain face à Arsenal, 18h sur RMC. C'est la deuxième d'affilée, un an quasiment jour pour jour après le premier titre décroché à Munich face à l'Inter. Exploit que seul le Real Madrid de Zidane a réussi depuis le début des années 90. En 4 victoires, le PSG entrerait dans un club très fermé. Surtout, le PSG deviendrait le premier club français a décroché deux fois la Ligue des Champions dans son histoire. Écoutez Luis Enrique, c'était il y a quelques jours, il parlait justement de la portée historique du match de demain.
Je pense que la première a été incroyable, inoubliable, mais dans ce moment, c'est les gens que je les dis à compétitif, je ne me rappelle de la première. La première, c'est la histoire. Je ne suis pas intéressé à l'histoire. Je suis intéressé à gagner la deuxième. C'est ça, faire l'histoire. La première, il y a n'importe. Il n'y a pas de valeur dans la première Champions League. Il restera sur l'histoire. Je ne suis pas intéressé à ça. La deuxième, c'est l'important. C'est ça que nous voulons gagner.
Jean-Louis Tour nous attend, c'est la voix du foot sur RMC, il est à Budapest déjà. Salut Jean-Louis.
Bonsoir à tous, bienvenue à la Puskás Arena pour cette finale de Ligue des Champions entre le PSG. C'est pas ce soir?
Non,
il faut que j'attende encore 24
heures. On y est déjà, ça fera des économies pour RMC, comme ça il n'y aura pas d'hôtel ce soir.
Pourquoi si, il y a un hôtel à payer ce soir?
Justement.
Bah non, s'il reste au stade.
Ah oui.
Ah, si je dors au stade, bien sûr.
Il dort au
stade. J'avais connu qui ont dormi dans les buts, hein, Geoffroy Guichard.
Ah ouais?
Tu pouvais dormir dans les buts.
C'est vrai?
Pourquoi pas?
Incroyable. Ouais,
bah, je vous laisse chercher.
Bon, bah, Jaco Santini, c'est sûr, il s'est perdu.
Non, c'est un consultant.
Le temps qu'il se réveille.
Écoute, consultant, producteur, journaliste, Jean-Michel Larquet a dormi dans le but de Geoffroy Guichard.
Non.
Ah, consultant, Laurent Paganelli?
Non,
je me rappelle même plus son nom.
Super. Bon, belle anecdote. Si. Merci Jean-Michel.
Mais si, il commence les matchs sur l'équipe. Je sais pas comment il s'appelle.
On ne sait pas comment il s'appelle. C'est une très belle anecdote. Si.
Sur l'équipe.
Ok, super.
Dans l'équipe, oui. Dans celui l'équipe. Qui commence les matchs.
Bon.
Rouillet.
Voilà. Johan Rioux.
Johan Rioux a dormi dans les buts à Geoffroy Guichard.
Ça, c'est intéressant.
Ah, c'est vrai, c'est super intéressant.
On devrait
l'appeler pour qu'il nous explique.
Ah ouais, super. Non, il est en voyage, je crois qu'il est en train de relancer.
Ah ouais, il fait un road trip.
Je me suis demandé toujours pourquoi, mais il a dormi dans les buts un jour, Guichard.
Ah bah, il va à Budapest en vélo, apparemment.
Jean-Louis, t'es pas rendu là quand même.
Je chauffe la place de Jérôme.
Voilà, exactement.
Elle est prête pour demain.
Alors, Jean-Louis, comment placer le match de demain dans les rencontres historiques du Paris? Paris Saint-Germain.
Bah alors, le débat, c'est surtout sur la finale de l'année dernière hein, qui peut avoir lieu. On peut citer, pour ceux qui aiment l'histoire du PSG, la finale contre le Rapid de Vienne en 96 pour la première Coupe d'Europe du club. Pourquoi pas la finale de Coupe de France de 82, le premier titre de l'histoire du club avec l'image du président Borrelli qui embrasse la pelouse. Mais bon, Coupe de France, Coupe des Coupes, ça n'a pas le même prestige que la Ligue des Champions qui récompense la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là. Et d'autant que cette quête a été longue à obtenir avec beaucoup de désillusions. C'est en ça, à mon avis, hein, que PSG Inter, ça reste tout en haut, même si les supporters mettent dans les banderoles comme un slogan « Une fois c'est historique, deux fois c'est légendaire ». Il y a quelques minutes, Luis Enrique d'ailleurs, qu'on a entendu, il a un peu précisé sa pensée. Pour lui, rentrer dans l'histoire, c'est fait, c'était la saison dernière. Mais c'est pas pour autant, même si on dit ça, qu'il y aura un problème de motivation. Et ça, tous les joueurs, Marquinhos, Dembélé, Luis Enrique qu'on a entendu, l'ont dit. Ils ont encore faim, ils sont drogués à cette émotion, à cette sensation d'avoir soulevé le trophée. Et donc, ils ont toute la motivation pour de nouveau revivre ces émotions.
C'est la une de Rotten sans flamme ce soir à la veille de ce PSG-Arsenal. Est-ce le plus grand match de l'histoire du PSG, Jérôme, alors ?
Écoute, j'ai du mal avec le plus grand match d'une histoire parce que ça veut dire que tu respectes pas et t'as oublié l'histoire du club et le PSG a quand même bien grandi sur les dernières années. Non mais si, parce que quand c'est le plus grand match, une finale de Ligue des Champions pour un club, ça veut dire que déjà ils n'ont jamais participé à ce match-là. Parce que si tu pars de ce principe-là, l'année dernière, c'était le plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont gagné, la finale.
Oui, oui.
Donc, et avant ce match-là, le match le plus important, c'était la finale que j'ai commentée.
2020.
Alors, c'était sous le Covid. Mmh. Mais quand même, c'était une finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Mmh. Avec cette défaite 1-0 et le but de Coman. Mmh. Donc, et c'est oublié ça. Et puis, il y en a eu des autres grands matchs parce que par moment, tu peux faire des demi-finales aussi et dire que ce match-là était, par rapport à tout ce qui représentait le scénario, le truc, c'était un grand match. Donc, c'est pour ça que ça dépend, en fait. Moi, personnellement, je vais te dire, j'ai pas la science infuse, je me mets pas à la place de tous les supporters du Paris Saint-Germain ou les amoureux du Paris Saint-Germain. Je me dis que c'est génial de vivre ces moments-là et que pour moi, j'ai du mal à faire une différence et à mettre un match plus haut que l'autre dans la hiérarchie. Pour moi, on est des enfants gâtés aujourd'hui quand t'es amoureux du football français, mais surtout passionné du Paris Saint-Germain. Franchement, on vit une période faste incroyable, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'on vit. Il y a deux ans, c'était une demi-finale, avec un petit goût amer à l'élimination, c'est vrai. L'année dernière, c'est cette finale gagnée, et cette année, encore une finale, qui risque d'être magnifique, avec des Anglais, tu sais très bien que l'ambiance est toujours particulière sur ces finales-là. Donc, elle risque d'être incroyable. L'année dernière, en effet, si tu mets tout le contexte entre l'approche du match, le match et l'après-match, c'était génial côté parisien, sauf que très vite, dans le stade, on y était avec Jean-Louis. Très vite, on a senti que les Italiens étaient éteints. Mmh. Ils n'existaient pas sur le terrain et dans les tribunes. Donc en fait, ça a fait un match fantastique. C'était la première, en plus c'est spécial quand même, tu vois. Et on a eu le temps, si tu veux, de digérer déjà pendant le match. Il y avait beaucoup d'émotions en effet pour ceux qui ont ce club dans la peau, et j'en fais partie en effet. Donc on attendait ce moment-là. Donc pendant une demi-heure en deuxième mi-temps, Benoît, je te garantis que c'était un régal total. Oui. C'était un régal total. On a eu le temps de tout regarder à droite à gauche. Tu savais que t'allais gagner, que t'allais être champion d'Europe. Donc cette année, elle est peut-être différente.
Là, tu me parles d'émotion, mais pas de portée historique d'un match.
Mais
d'un
résultat. ça va avec pour juger. Il y a que les amoureux du Paris Saint-Germain qui peuvent juger si ce match-là est le plus important pour eux de l'histoire, je pense.
Qu'en pensez-vous, Jean-Michel et Jean-Pierre ? Vas-y, Jean-Michel.
Bah, écoute, moi, je trouve que c'est impossible et c'est même un petit peu maso de vouloir mettre un curseur sur
exactement.
Sur ça. Moi, je pense que ça, c'est d'abord le match. C'est pas le plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain parce que c'est pas le même adversaire. Ça n'a pas été la même adversité. Le parcours n'a pas été le même pour y parvenir. Mais Luis Enrique a raison de le dire. Ce serait le match pour le titre de champion. Ce serait le match le plus important. Et le match le plus important, après, on jugera dans 2-3 ans quel était le match qui a donné le plus d'émotion. Mais il n'est pas plus important que celui de l'an passé. Et si tu gagnes ce soir, tu gagnes une Ligue des Champions comme tu as gagné une Ligue des Champions l'an passé.
Mais non, c'est pas la même histoire, Jean-Michel. T'en gagnes deux d'affilée, ce qui n'arrive jamais en Coupe d'Europe. C'est ça la différence, en fait, entre le titre de l'an dernier et celui que tu peux aller chercher
alors,
cette
Benoît,
année.
Benoît, de grâce, ne te mets pas à la place des supporters et ne te mets pas surtout à la place des joueurs. Peut-être que ce soir, le Paris Saint-Germain, et je laisse. Ce soir.
Demain.
Quoi,
c'est demain.
Demain.
Ce soir, c'est un autre match qui t'attend, Jean-Michel.
Oui, c'est un autre match. Demain, le Paris Saint-Germain va gagner la deuxième Ligue des Champions. Et lorsqu'on fera le bilan de cette période exceptionnelle dans 10 ans, dans 15 ans, on questionnera peut-être Dembélé, qui aura des cheveux blancs, ou Marquinhos, qui aura des cheveux blancs. Et peut-être qu'eux te donneront une réponse en te disant « Ah oui, mais on a gagné deux, c'est vrai, c'est formidable pour le club, mais la première nous a donné plus d'émotion que la seconde. Pour nous, c'était plus important de
Donc on attend 10 ans pour faire le débat, alors.
Mais non, on n'attend pas le débat. Je te dis que c'est impossible. Je veux bien, Benoît, ne sois pas vexé. Je veux bien que l'on essaie de comparer Eddy Merckx et Pogacar, ou Bernardino et Pogacar, et on n'arrivera jamais à connaître la vérité.
Ah ouais.
Et bien donc, on n'arrivera jamais à avoir la réponse. Et moi, je suis très pragmatique, très empirique. J'aime bien, quand on pose des questions, avoir les réponses. Or, à ta question, personne ne peut y répondre.
Ah bah attends, t'as pas entendu Jean-Pierre encore. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Pierre ?
Alors, moi, je suis un peu d'accord avec Luis Enrique.
Ah, parce tu dis que c'est le plus grand match.
Ouais. Non, je dis que c'est. Alors, je dis pas que c'est le plus grand match, mais le PSG.
C'est le plus important.
Le PSG a déjà fait tellement de grands matchs, parce que quand tu regardes bien la Ligue des Champions l'année dernière. Mais derrière, t'as la Super Coupe, t'as la Coupe du Monde, t'as l'Intercontinental. T'as des choses que eux, ils ont déjà vécues, que personne ne vivra peut-être même jamais plus. Mais par contre, sur le fait de la deuxième Coupe d'Europe, je dis, quand on sait comment c'est compliqué, qu'on a déjà recommencé à avoir pratiquement le même tableau, où t'as joué les gros clubs anglais, tu les as massacrés, etc. T'arrives en finale, tu sais, et c'est là où c'est différent, c'est que tu sais ce qu'il faut faire pour y arriver. Que la première fois, c'est un peu la surprise, t'es un peu motivé, tu veux la gagner, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais la deuxième, je trouve que effectivement, elle a un côté un peu plus, elle est aussi importante, mais elle a un côté un peu plus historique que l'autre.
Il y a une portée exceptionnelle et c'est le retentissement international aussi, Jérôme. Tout le monde, tous les fans de foot dans le monde regardent la Ligue des Champions. Tu vois le PSG triompher deux fois. Ça marque une époque.
Non,
en fait.
Mais
c'est,
attention.
C'est ça l'histoire.
Là, tu dis marquer l'époque. Moi, je suis comme toi, je le dis. Si le PSG prend cette deuxième étoile.
Barcelone n'a jamais gagné deux fois de suite la Ligue des Champions.
Non, mais il y a très peu. Il y a Milan qui l'a fait, le Real.
Il y a 8 clubs qui l'ont fait en tout. Mais après, avant, c'était pas la
Coupe d'Europe.
Nottingham Forest.
Le Bayern, l'Ajax, l'Inter, le Benfica.
Voilà, mais ça remonte. Ce que je veux dire, dernièrement, il y a eu le Real Madrid, on l'a vu, trois de suite. Voilà, ce qui est.
C'était jamais arrivé depuis les années 90,
c'est une performance incroyable. Mais déjà deux fois, c'est fou. Donc, oui, ça marquera cette génération. Elle a déjà marqué son époque. Et je pense que tout le monde se souviendra que dans les années 2020, le PSG a dominé l'Europe et a enchaîné des très bons résultats et a fait deux finales de suite. J'espère qu'il y en aura d'autres et une demi-finale avant. Donc t'imagines. Et puis 2020, il y a eu cette finale le Covid. Donc oui, en termes de résultats européens, il y a très peu de clubs qui font mieux que le PSG. Il y en a quasiment pas. Donc en gagnant cette deuxième étoile, tu marques les esprits définitivement. Cette génération-là, on en parlait
donc,
hier.
Donc elle est plus historique encore pour toi.
Bravo JPP.
En fait,
comprend le foot.
Jean-Pierre, c'est l'ensemble qui rend quelque chose de fou. Et comme je suis Jean-Michel,
je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Ouais.
Mais quand tu sais ce qu'il faut faire pour aller chercher une, déjà, t'en as une, et que tu refais la même chose l'année d'après, tu dois la gagner. Et moi, je suis un peu d'accord avec Luis Enrique. C'est que la première était historique, la deuxième, elle est légendaire. C'est pas la même chose.
C'est vrai.
Et c'est pas, pour moi, c'est pas la même chose. Il y a un petit côté un peu plus un peu plus fort.
En fait, c'est un exploit,
oui, la confirmation d'un exploit.
Si je peux me permettre.
Vas-y, Jean-Louis, vas-y.
Oui, Jean-Louis.
Moi, je pense quand même que Luis Enrique fait aussi ça pour maintenir son groupe sous pression. Déjà, il y a ce premier truc.
Non, mais Jean-Louis, il n'a pas besoin.
Deuxième truc. Non, bon, d'accord. Alors, deuxième truc quand même. Moi, je trouve que. Non, pas du tout, mais j'ai envie de dire mon deuxième truc, donc j'insiste pas sur le
dis pas une deuxième connerie.
Non, la première n'en était pas une. Non, mais ce que je veux dire quand même, j'ai l'impression que vous minimisez un peu ce qui a été fait l'année dernière d'un point de vue mental. Faut quand même pas oublier que la performance l'année dernière, pour moi, c'est déplacer une montagne. C'est-à-dire vaincre ce complexe mental, ce verrou mental de gagner la première Ligue des Champions. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que on a parlé, Jérôme, on les a commentés, on les a vécus, toutes les désillusions parisiennes qui revenaient à chaque fois qu'il y avait un moment difficile, la peur d'être ridicule, la peur de se faire sortir,
comme
etc.
Comme Arsenal l'a vécu avec la première Ligue.
Luis Enrique a fait en sorte que tout ça saute l'année dernière. Luis Enrique, le club, il y a eu un changement global pour tout ça et je pense encore que cette année tu récoltes les fruits de ce que t'as semé, de ce que t'as bien fait l'année dernière. C'est pour ça que je dis que la première, c'est un truc tellement énorme.
Mais c'est
un
encore truc... plus dur de gagner deux fois de suite, Jean-Louis.
Justement, cette première là, elle a été tellement compliquée. Il y a 30 fou, ans ça, derrière à attendre la première victoire.
Et Jean-Mi,
Benoît, pour avec une différence, comme disait quelqu'un que je connaissais bien, il y a la ligne droite de Longchamp comme différence. La première Coupe de France que j'ai gagnée, elle est par rapport aux deux autres. Et là, ensuite, j'en ai gagné deux consécutives. Bah, excuse-moi de te rapporter simplement mon expérience personnelle, puisque je suis là et que tu me poses la question. La première... elle est inoubliable, elle a une saveur particulière.
Mais ça, on est tous d'accord.
Le débat est fini, bravo Jean-Michel. Non, allez, on passe à la suite.
Je peux te dire.
Mais pourquoi personne ne le fait en Coupe d'Europe ?
J'étais heureux lorsque j'ai gagné la troisième. Mon papa était là, j'étais capitaine. Mais la première.
Mais qui a dit l'inverse ?
C'est comme ton premier amour.
On vous parle de marquer l'histoire.
À moins que tu n'en aies jamais eu.
Vous savez la différence entre vous trois, là, Jérôme Rotten, Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet et nous avec JPP, c'est que vous êtes des émotifs. Vous êtes uniquement sur l'émotion.
Oh, il y a Luis Fernandez, dis donc.
Excellent. Tu lui passes le bonjour. Vous êtes uniquement sur l'émotion, vous n'êtes pas sur la portée historique du match de demain. C'est ça la différence.
D'après toi, qui a un cœur de pierre, d'être des émotifs, c'est mal.
Mais vous êtes à côté du débat. On parle de la portée historique de ce match.
Elle doit passer des belles soirées. Madame Boutron.
Passe des belles soirées.
Ouais, je régale.
Bien sûr. Jérôme peut confirmer. Ouais. Tiens, accueillons Gabriel, supporter parisien en 32-16. Salut Gabriel.
Ouais, salut à tous.
Salut Gabi.
Ça dépend du résultat de demain. Salut Gabriel.
Alors Gabriel, tu fais une hiérarchie, toi, dans les
finales. Bien sûr que non.
Ouais, je fais une hiérarchie.
Allez.
Je vais répondre à votre question parce que j'ai entendu ce que disait Jean-Michel Larquet et je comprends parfaitement ce qu'il dit, mais il a son regard de joueur et vous vous positionnez du regard de joueur, c'est-à-dire qu'effectivement le premier titre que tu gagnes, quel qu'il soit, il est toujours magique, c'est le premier, donc forcément c'est toujours magique et ça a un côté qui disparaît jamais et sur lequel après derrière, même quand on gagne d'autres, le premier c'est le plus important. Mais là moi je vais parler avec mon regard de supporter. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est malgré tout le regard des supporters. Pour tous les supporters parisiens, si demain soir on décroche cette deuxième Ligue des Champions, ce match aura encore plus de saveur et encore plus d'impact que celui de l'an dernier. Pourquoi ? Parce que effectivement l'an dernier, je vais pas dire que Paris n'était pas attendu, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que c'est pas l'équipe qu'on attendait. Là, cette année, tout le monde nous attendait parce qu'on est champion en titre, parce que derrière l'équipe, elle a montré des choses, que ce soit contre le Bayern, contre Chelsea, contre Liverpool, et même je trouve que le parcours est même encore plus beau que celui de l'an dernier. On a affiché une maîtrise complète. Et pour moi, ce match demain, si on gagne, c'est énormissime. Ça devient effectivement légendaire.
Bravo,
comme vous l'avez dit, il y a peu de clubs qui l'ont gagné deux fois. on va rentrer dans ce club très fermé, des clubs qui ont réussi à gagner deux fois d'affilée, et c'est encore plus compliqué dans l'ère moderne de la Ligue des Champions. Je ne minimise pas ce qu'ont fait les autres clubs dans le passé, mais c'est incomparable. La difficulté, elle est incomparable pour enchaîner deux Ligues de Champions d'affilée. Et on le voit tous les ans, hormis le Real qui a été incroyable sur les trois saisons où ils l'ont fait d'affilée, et tout le monde a dit que c'était la troisième, elle est encore plus folle que les deux autres, en fait. Parce que justement, c'est la continuité qui fait que celle qui suit, elle est encore plus belle, en fait. Enfin, moi, c'est mon avis. Après,
c'est brillant, Gabriel. Alors là, félicitations.
C'est l'histoire, c'est pas pareil. Non, c'était jamais arrivé.
Non, mais je respecte complètement et je comprends complètement le raisonnement de Gabriel. Gabriel, s'il était consultant à RMC et donnerait son avis de supporter, excusez-moi de donner mon avis d'ancien joueur.
Ah, voilà, c'est ce qu'on aime, bien sûr. Merci Gabriel d'être venu au 32-16. Bonne finale à toi. Plaisir. En tout cas, merci, régale-toi.
Il y en a certains qui n'ont été ni joueurs ni supporters. Tu te rends compte et qui donnent leur avis.
Ça, c'est terrible.
Qui ça? Suivez mon regard.
Ah, ouais, mais c'est de la radio. Je comprends pas.
Quelqu'un qui a un cœur de pierre.
Ah, d'accord, très bien. Ouais. Merci à Jean-Louis Tour, la voix du foot sur RMC. Demain, gros dispositif.
Hein, on cœur de Louis dans 17h.
Chauffe mon ciel.
Voilà, Jérôme Rotten à tes côtés en fusion.
Et chauffe ta voix, toi. Voilà.
Ma voix, t'en fais pas.
Et je me permets juste, Jean-Louis.
Peut-être la perdre en deuxième mi-temps.
Depuis le début de semaine, Jérôme promet des câlins à tous les supporters parisiens qu'il croisera à Budapest.
Non, mais c'est eux qui veulent m'en faire.
C'est vrai. Il faut le câlin porte-bonheur de Jérôme Rotten. Donc si tu.
Il faut que les gens d'accord quand même.
Je préfère pas. Non, mais c'est les supporters qui demandent.
T'en fais pas.
L'année dernière à Munich, je l'ai vu, hein, c'était
entre,
ça.
Entre Jean,
moi, tu vas avoir quelques Jean-Louis peut-être,
et
Jérôme,
Arthur si Perrault, je peux te dire qu'ils me font des câlins parce que il n'y a pas beaucoup de place. Hein.
Et d'ailleurs, j'adresse un message à tous ceux qui seront dans l'avion avec Jérôme.
Par contre, Jeannot, j'arrivais pas à faire le tour. Avec Jean-Louis, j'y arrive.
On l'embrasse.
J'étais obligé de partir à droite. À chaque fois, à gauche, il bloquait l'issue.
Ceux qui seront dans l'avion avec toi peuvent venir te voir et te faire un câlin, d'ailleurs, on le précise. N'hésitez pas. Si vous êtes gentil, je vous donnerai l'heure de l'avion de Jérôme, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Non, merci Jean-Louis. D'accord.
Ah bon,
ok. 18h26 sur RMC. Dans un instant. Ah, c'est le moment. Le moment pour envoyer liste par SMS au 732-16.
Ça prend que tu partais ce soir.
Vous pouvez remporter jusqu'à 10 000 euros en cash.
Jean-Mi, je vais pas mentir aux gens. Il y a une vingtaine d'années, ouais, c'est ce que je disais. Ouais.
Oh, non. Ça, c'est pas bien.
Et je regrette pas.
Hein. Il faut jamais mentir.
Ah ouais. On l'embrasse.
Mentir. Liste par SMS au 732-16, 10 000 euros, le pack Coupe du Monde sur RMC avec un vidéoprojecteur, un maillot de l'équipe de France, le ballon officiel, la Coupe du Monde en Lego. Il est 18h26, vous avez jusqu'à 18h31 pour envoyer liste par SMS au 732-16. Dans un instant, on va ouvrir le procès de tous ceux qui sous-estiment les individualités d'Arsenal. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Ousmane Dembélé, femme de frappe, la frappe du gauche, et le but, la voilà la climatisation.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC. Et oui, vous l'entendez, c'est soirée spéciale Paris Saint-Germain, comme toute la journée demain. C'est la deuxième étoile pour Benoît Boutron, il va être ravi. On est avec Jean-Pierre Papin, Jean-Michel Larquet. On continue nos débats. Très belle émission aujourd'hui, je vous conseille de rester avec nous. On est là jusqu'à 18h comme tous les soirs.
À 18h45.
18h45, jusqu'à 20h,
j'ai dit quoi?
J'ai dit quoi?
T'as dit 18h.
Voilà. Ah non, c'est 18h-20h tous les jours.
À 18h45, on aura un supporter historique. Encore un Philippe.
Emblématique du Paris Saint-Germain, ouais. Philippe sera avec nous. Il est abonné depuis la création du club. Il y a plein d'anecdotes à raconter. Et puis Rotten se chauffe à 19h. Doit-on s'attendre à une finale fermée? On retrouvera à Budapest Valentin Jamin, Arthur Perrault, Fabrice Hawkins qui seront avec nous. On fera un grand débat aussi autour de Gvara et Dembélé à 19h30. Retournons pour l'instant à Roland-Garros, suivre le match de Novak Djokovic face au Brésilien Fonseca. Eric Salio.
Match totalement relancé puisque Joao Fonseca vient de prendre la troisième manche avec un jeu de service parfaitement maîtrisé. Il avait balle de break à sauver et là il a sorti la boîte à gifles. Bonne première et deux aces derrière. Et donc ça fait 2-7-0, 2-7-1 pour Novak Djokovic. 6-4, 6-4, 3-6.
RMC, Rotten sans flamme.
J'adore ce joueur.
Anthony de Thalès, grand
joueur. Pour moi, c'est un des plus grands joueurs du monde.
Anthony de Thalès, voilà.
Ah oui, ce joueur, il va exploser complètement. C'est des joueurs qui jouent avec des valeurs. Et c'est des joueurs très rares.
Le procès de Roten sans flamme.
Embrasse Francis Lalanne, hein, qui avait des analyses pertinentes d'un point de vue football.
Qui sentait bien.
Exactement.
Non, mais il faut savoir que quand il a parlé de.
Le Talek,
il avait 32 ans, il était en fin de carrière.
Oh, ça arrive, c'est bon.
Il y a un peu de Stevie dans Steve Savidan.
C'est vrai qu'il y a des points communs.
Francis Lalanne.
Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé.
Il travaille sur un duo, là.
Les cuissardes, notamment.
Ouais, c'est vrai.
Alors, tout le monde connaît les points forts.
Stevie, les cuissardes.
D'Arsenal,
aussi,
ouais, certainement. Ouais. Arsenal qui est invaincu en Ligue des Champions cette saison, c'est la meilleure défense. On peut saluer les grandes performances de Raya, le gardien de but espagnol, qui vient d'être élu pour la troisième année consécutive meilleur gardien de Première Ligue. La charnière centrale très performante, Saliba Gabriel. Le milieu de terrain, Declan Rice, qui lui aussi fait une saison fantastique. C'est un peu plus délicat offensivement de citer une individualité. Le meilleur buteur, c'est Martinelli avec 6 buts. Les autres, Saka, 3 buts. Eze, 1 but. Gyökeres, 5 buts. Ou encore Kai Havertz, 3 buts. Des joueurs qui animent un collectif bien rodé. Mais on a du mal à ressortir un nom du chapeau. Ce soir, on va ouvrir le procès de tous ceux qui sous-estiment les individualités d'Arsenal. Il y a un membre de la Dream Team à qui ça ne plaît pas. C'est Jean-Pierre Papin. Bonsoir.
Bonsoir.
Les deux avocats du soir sont Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Jean-Michel Larquet, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et un auditeur va arriver pour trancher ce procès dans un instant. Jean-Pierre, vas-y, toi tu trouves qu'on est un peu dur avec justement cette équipe d'Arsenal, plutôt avec les individualités qui composent cette équipe.
Ouais, moi déjà je pense qu'il ne faut pas leur manquer de respect, parce que... En les sous-estimant comme ça, je pense que c'est un peu leur manquer de respect. Ils viennent d'être champions d'Angleterre. Je pense que c'est quelque chose qui est très fort, très compliqué. Quand tu les regardes bien un par un, sincèrement, il y a du beau monde. Le problème avec Arsenal, c'est qu'on parle plus du collectif régulièrement que de ses individualités. Mais quand on regarde bien ses individualités, t'as quand même des joueurs qui pourraient jouer, je pense, n'importe où ailleurs. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'aujourd'hui, on ait un procès par rapport à ces joueurs-là dans cette équipe-là. Je pense que la vraie force d'Arsenal, quoi qu'il arrive, c'est leur collectif. Mais quand t'as des Saka, Gyökeres, Declan Rice, Odegaard, Martinelli et d'autres, je pense qu'on doit pas les sous-estimer, on doit tenir compte de leur vraie qualité. Et attention, ça peut aussi faire mal.
Méfiance. Parole à défense, Jérôme.
Non mais, encore une fois, redonne-moi le thème du...
On fait le procès de tous ceux qui sous-estiment les individualités.
En fait, c'est pas une question de sous-estimer. Moi, je suis d'accord avec tout ce que dit Jean-Pierre. La seule chose, c'est que à un moment, quand tu regardes sur le tableau noir...
Ouais.
Déjà, quand tu t'amuses à faire une équipe sur les 22 joueurs titulaires, tu te dis qui je prendrais pour faire le meilleur 11. Déjà, d'un point de vue offensif, et c'est ce qui est le plus dur dans le foot, on le sait très bien parce qu'on l'a vécu, c'est de créer du jeu et de finir les actions pour faire gagner ton équipe. C'est l'aspect offensif qui est plus dur dans le football. Le bon contrôle, la bonne passe, le bon dernier geste, la bonne dernière passe, c'est ça qui c'est l'inspiration des grands joueurs, en effet. Et je dis pas qu'Arsenal a pas des grands joueurs, ils ont des grands joueurs, sinon ils seraient pas champions d'Angleterre l'année dernière, ils auraient pas fait demi-finale de la Ligue des Champions et ils auraient pas été en finale cette année. Ils ont des grands joueurs, mais qui sont bonifiés par un collectif qui est très très bien huilé et qui a été mis en confiance par Arteta. Et je te le dis, je le dis avec en connaissance de cause. Moi, quand j'étais à l'AS Monaco, on avait des grands joueurs, parce que tu vas pas en finale de la Ligue des Champions par hasard, mais on n'était pas des joueurs stratosphériques comme des joueurs
t'avais
qu'on a éliminés.
Un Cristiano, un Messi ou un Dembélé.
Quand on élimine.
Tu donnes raison, Jérôme, c'est gentil. C'est sympa.
Non, et on n'avait pas des joueurs, des grands joueurs, comme il y avait au Real Madrid, l'équipe qu'on a éliminée, ou à Chelsea, qu'on a éliminé en demi-finale. C'est la réalité. Et nous, on ne se prenait pas pour des cadors. On était très forts ensemble, collectivement, parce que, tu vois, par exemple, poste pour poste, moi, je sais que j'étais bonifié par Pat Evra, j'étais bonifié par mes milieux de terrain. Moi, je bonifiais les attaquants, et ainsi de suite. Et chacun, et c'est un peu ce que fait Arsenal.
Mais c'est collectif, ça sent Jérôme.
Oui, mais je te dis pas que le PSG ne fait pas ça, parce qu'ils ont dominé l'Europe l'année dernière, parce que le collectif était impressionnant. Mais par contre, avec toute cette expérience de l'année dernière et tous ces grands matchs, automatiquement, c'est pas faire injure aux joueurs d'Arsenal de dire que il y a des grands joueurs à Paris, des grands joueurs. On a un ballon d'or, on a peut-être un futur ballon d'or. Peut-être que ça sera le même ballon d'or d'Embélé, peut-être que ça sera Kvaratskhelia avec ce qu'il fait, qui a doué le Golden Boy. On a Vitinha qui était numéro 3, on a Joao Neves, on a des latéraux, je pense qu'il n'y a rien de mieux au monde aujourd'hui entre Hakimi et Nuno Mendes. Vous rendrez, on a une tour de contrôle qui est pas de chaud, même s'il y a des grands défenseurs en face aussi. Donc, ce que je veux dire, quand tu prends comme ça, et c'est pas mettre Arsenal plus bas que terre, c'est juste reconnaître que, en effet, il y a des grands joueurs à Paris et ils sont plus grands individuellement que les joueurs d'Arsenal.
Alors, Jean-Michel, qu'est-ce que tu veux rajouter ?
Rajouter que ce serait une erreur et que c'est pas dans l'air du temps de sous-estimer la qualité des joueurs. Mais je vais mettre peut-être une petite pierre, un pavé dans la mare. Moi, contrairement à ce que vous dites, sur le plan collectif, je pense que celui qui a l'avantage sur le plan individuel, je pense que l'équipe du Paris Saint-Germain est plus talentueuse. Je prendrais peut-être Raya, le gardien. Je mettrais peut-être probablement Saliba en défense centrale. Ouais. Et peut-être que ça s'arrêterait là, voyez-vous.
Peut-être Rice au milieu, mais ça dépend dans quelle position. Parce que, au PSG, c'est costaud.
Allez, 3 sur 11, on irait là. Mais moi, je trouve que, précisément, c'est sur le plan collectif que cette équipe d'Arsenal me pose des problèmes. Mais c'est peut-être un choix. Peut-être que je me trompe. Mais autant, on va avec l'équipe actuelle, s'il n'y a pas de blessés, on connaît le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Autant, et je sais pas, mais est-ce que c'est Calafiori qui joue latéral? Est-ce que c'est plutôt Incapié qui joue latéral? Est-ce que c'est Merino? Est-ce que c'est Zubimendi? Est-ce que c'est Odegaard? Est-ce que c'est Thésée? Est-ce que c'est Trossard? Est-ce que c'est Martinelli? Et honnêtement, c'est là où je me pose le plus de questions concernant Arsenal. C'est que, est-ce que c'est Jokeres? Est-ce que c'est Havertz? J'ai du mal. Pour le match de demain, je suis incapable à un jour près, on connaît l'équipe du Paris Saint-Germain, à un jour près, je suis incapable de vous donner celle que va aligner Arteta. J'en sais rien, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un choix, peut-être que les joueurs.
Et ça, tu dis que c'est mauvais signe, ça veut dire que t'as pas des joueurs qui font honnêtement la différence à leur poste.
Je sais pas si c'est mauvais signe, en tout cas, c'est pas rassurant. Okay. Voilà.
Maxime est là, au 32-16, pour rendre son verdict. Salut Maxime.
Salut Max. Tout le monde.
Bon, qui remporte ce procès, la doublette Larc et Rotten ou le ballon d'or Jean-Pierre Papin?
Ben, moi, je suis plutôt d'accord avec Jérôme.
Ok.
Je pense que Paris, niveau individualité et collectif, c'est vraiment plus fort que Arsenal.
Donc, mais ça, on est d'accord, encore une fois, on est d'accord, il n'y a pas de souci.
Ça a perdu ça, on est d'accord. Vraiment.
Bah ouais,
mais on est d'accord, mais surtout, ne pas sous-estimer les autres, ça c'est le plus important. Non. Attention.
Non, faut pas sous-estimer Arsenal, mais pareil, on est dans le néant, Arsenal, on ne sait pas comment ils vont jouer demain. On ne sait pas quelle équipe il va aligner. Mais en tant que supporter parisien, je pense que Paris quand même est au-dessus d'Arsenal.
Je te dis qu'en termes d'individualité, il n'y a pas photo entre les deux équipes.
Franchement,
il n'y a même pas photo. On a Dembélé, on a Doué, on a Barcola, on a Kvara.
Et les latéraux, les arrière-latéraux, déjà. Oui. C'est,
franchement. Même si on n'a pas Hakimi, il y a Warren Zaremri.
C'est surtout là où tu as raison, c'est que le ballon d'or, alors c'est Ousmane, et il le mérite. Et j'espère peut-être, parce qu'il veut en faire un deuxième, donc peut-être qu'il l'aura s'il est encore performant sur la finale et à la Coupe du Monde. Mais non, n'empêche que dans cette équipe, t'en as beaucoup qui se rapprochent du ballon d'or. Beaucoup plus qu'à Arsenal.
Beaucoup le mérite, Vitinha.
Arsenal,
tu vas pas donner le ballon d'or à Saka quand même.
Il faudra trouver des candidats s'ils gagnent.
Tu vas donner à Martinelli.
La Ligue des Champions. Declan Rice, c'est une grosse saison.
Franchement,
j'espère que vous aurez raison demain, les amis.
Voilà. Et voilà. Tu vois.
Ah non, mais attention.
Non, mais si, il a raison, vous êtes trop confiant.
Non, mais ça m'énerve. Tu m'énerves quand tu dis ça.
Ça sent mauvais pour le PSG, là.
Dès qu'il est con,
tu viens. Tu serais pas des gens anxieux, toi. Tu serais pas supporter de l'OM, JPP.
Ouais.
Mais
non,
c'est même pas ça.
T'enterrais pas un petit peu la ce point là.
Jean-Pierre, comme on dit, ici c'est.
Non, mais par ailleurs.
Ah, mais ça je sais, mais ça je sais.
Merci Maxime d'être venu. Ça nous permet de rappeler qu'à la Casa Dimeco, aux abords du stade Vélodrome, il y a un code promo
back to back.
Après la finale. Hein. Back to back.
Et pizza achetée, pizza gratuite.
Pizza gratuite, si jamais le PSG.
Écoutez la JPP, vous allez voir.
Il y a une pizza JPP, ce serait magnifique.
Eh oui, bien sûr.
Ah ben, y a quoi dedans alors ?
Il y a quoi dessus ?
Ah, il y a plein de choses.
Bah, c'est... il sait pas.
Il sait même pas, tu vois.
Oh, c'est incroyable. T'as raison, JPP, c'est de la bonne pub. Il faut aller
c'est
voir.
C'est pour le il faut se déplacer pour aller voir.
T'aurais aimé qu'il y ait quoi dessus, Jean-Pierre ?
Hein ? Bah, qu'est-ce que t'aimes dans les pizzas, JP ?
Moi, j'aime les quatre. Le quatre pour moi, la meilleure, pour moi, c'est les quatre fromages.
Ah, voilà, déjà. Crac.
Mais après. Ouais,
donc, tu l'appelles la quatre fromages, pas la JPP,
bah non,
alors.
La JPP, c'est mieux.
Non, en fait, je kiffe la JPP. Je kiffe la.
La JPP, il a dit.
Je vais trouver la recette. Je vais investiguer. Je trouve la recette.
Ah, et bah, dans Eric, un instant, tu le vois de suite, là.
Exactement. Allô, Jérôme. Ouais. Encore un supporter emblématique du Paris Saint-Germain. Philippe sera avec nous. Il est abonné au club depuis sa création. Il a plein d'anecdotes à nous raconter. À tout de suite.
On espère.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Où est dans la surface de réparation, dans l'angle, il va la tenter, il frappe ! Et le but !
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h48 sur RMC, les 10 dernières minutes de Rotten sans flamme, de la première heure, mais après 19h, de nouveau, de retour avec Jean-Pierre Papin, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. Benoît, à 19h.
Rotten se chauffe. Doit-on s'attendre à une finale fermée en Ligue des Champions ? Demain, 18h, c'est dans... un peu plus de 23 heures, la finale de la Ligue des Champions en direct de Budapest. Jérôme Rotten sera là.
C'est le même PSG thème l'année dernière, je crois.
Ah bon, c'est vrai ?
Ouais.
Je me rappelle.
Résultat, c'était fermé. Hein.
Je me rappelle très bien de cette émission. Il y avait Pascal Olmeta qui était là. Ouais. Tu te rappelles ?
Jean-Michel, je me souviens, Jean-Michel.
Jean-Michel, je ne sais pas si.
Si, il était là. Il avait répondu oui, ça sera fermé, ouais, c'est obligé, l'Inter défend bien.
Ouais, une belle analyse, quoi.
Voilà, visionnaire.
Ouais, exactement. Mais tout de suite, avant de donner la parole à un supporter emblématique du Paris Saint-Germain, on retourne à Roland Garros. Parce qu'il y a un nouveau fait de jeu entre Novak Djokovic et le Brésilien Fonseca, Eric Salio.
Ouais, Fonseca a repris des couleurs. Hein. Il est revenu à deux manches à une en grattant ce troisième set, 6 jeux à 3, mais surtout il a fait le break d'entrée de quatrième manche face à Novak Djokovic. Il commence à avoir la tête des mauvais jours, il commence à plaindre auprès de l'arbitre en disant il y a trop de bruit dans le stade, je veux le silence. Il est à la recherche d'une certaine concentration. Et donc, écoutez, s'il y a un cinquième set, moi je ne vais pas me plaindre. Hein. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais à 2-7-1 Djoko, et 1-0 et peut-être 2-0 dans quelques instants pour Fonseca. Non, il a une balle encore pour faire 2-0.
Ok, merci Eric. On reviendra te voir régulièrement, voir si Novak Djokovic peut résister au retour du Brésilien. Tout de suite, allô Jérôme.
RMC, Rotten sans flamme.
Vous êtes notre fierté, vous allez enflammer. Ce stade de les choses est du virage. C'est le drame, une bonne fête.
Jérôme.
Et en cette veille de finale de Ligue des Champions, on continue de mettre à l'honneur les supporters emblématiques du Paris Saint-Germain. C'est un peu particulier aujourd'hui. On a un supporter qui est abonné depuis la création du club. Il y allait à l'époque avec son papa.
Oh bah c'est dire
Philippe,
qu'il doit être vieux.
Qui est dans ce studio avec nous. Salut Philippe.
Salut Philou. Bonsoir à tous.
Bon, on précise que Jérôme se permet de te chambrer parce que vous avez vous connaissez depuis des années et des années. Quoi. Ouais. Philippe, c'est un vrai supporter alors, historique du PSG.
Déjà, je le présente et puis après, il parlera, il fera son monologue en espérant qu'il soit bon. Philippe, on se connaît depuis maintenant plus de 20 ans.
Ouais.
Mais c'est surtout que c'est totalement crédible de le voir là. C'est pas parce que c'est mon ami, non, c'est surtout sûr, parce qu'il a tout connu avec son papa et donc il va expliquer le lien Philippe, qu'il a avec le PSG.
Raconte-nous ce lien alors.
Alors, le tout début, c'est l'histoire avec le Paris FC. Qui est indéniable parce que le Paris FC est l'émergence du Paris Saint-Germain. Et en fait, au tout départ, avec mon père était supporter du Paris FC.
Okay.
Et puis quand le Paris FC est descendu en 74, le Paris FC est descendu et le Paris Saint-Germain est monté. Et puis après, ça a été un choix un peu cornélien pour beaucoup de supporters et de cette génération-là. Est-ce qu'on suit le Paris FC ou est-ce qu'on va avec la nouvelle aventure, avec Daniel Echter supporter le Paris Saint-Germain. Puis voilà, mon papa a pris la tangente avec le Paris Saint-Germain parce que d'abord dans cette tribune, on était une tribune historique qui s'appelle la tribune C Rouge, qui est aujourd'hui la tribune 122, qui est à côté du banc du PSG. Et en fait, cette tribune était un peu communautaire, et puis tous les gens se retrouvaient. C'était des juifs pieds noirs et qui avaient l'impression, avec Daniel Echter, d'avoir un bout de football, parce que les pieds noirs étaient dingues de foot. Et puis voilà, est arrivé le Paris Saint-Germain avec voilà tout cette folie, tout cette c'était emblématique pour eux de se retrouver, d'être dans une tribune et d'avoir une certaine émotion. Et puis bon, l'émotion est arrivée quand le club est monté avec la mini crise cardiaque de l'entraîneur, et puis voilà tous ces débordements, et voilà, c'était quelque chose. Et puis voilà, la victoire contre Valenciennes était un moment un peu incroyable pour le club, parce que c'était la naissance du Paris Saint-Germain. Et voilà, moi, pour ma petite histoire, voilà, mon père m'a amené mon premier match au Paris Saint-Germain, c'était avec contre Valenciennes. Et puis après, moi, j'ai amené mon père au dernier match, et il s'est avéré que c'était le Paris Saint-Germain contre Valenciennes. Donc voilà, beaucoup d'émotions pour moi.
C'est une vraie histoire familiale, l'amour du PSG.
Oui, j'ai les deux tickets. J'ai le ticket du premier match, j'ai le ticket du dernier match.
Okay.
Puis moi, comme je garde beaucoup de choses, voilà, j'ai.
Et puis il a conservé, il le dit pas, mais il a conservé la deuxième place. Ce son papa, malheureusement, n'est plus là.
T'es à la même place dans le stade.
Ah oui.
Depuis que t'es abonné au Paris Saint-Germain.
Alors, il est un peu plus bas maintenant.
Parce que Paris Saint-Germain a fait quand même beaucoup de travaux dans son stade.
Okay.
Et puis voilà, alors au départ.
Il prend la pluie maintenant.
On était rang 9, après rang 5, maintenant on est rang 1. Et bientôt on va être rang je ne sais pas où.
On sera à la cave.
Voilà, bientôt. Ouais, c'est forcément qu'à un moment donné, ils vont essayer de nous mettre dehors. Quoi qu'ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Grâce à une femme qui s'appelle Cathy Redon, qui a milité pour qu'on puisse les historiques, enfin, ou les gens qui étaient très abonnés depuis beaucoup d'années, pour qu'on puisse rester dans cette tribune. Et elle a œuvré pour qu'on puisse rester, parce que c'était pas gagné, parce que voilà, ils voulaient nous faire partir.
Ouais. Philippe, il y a une anecdote folle que j'aimerais que tu racontes, justement, les années Borelli.
Tu
nous racontes un peu comment les supporters aidaient à financer justement la compétition du PSG en Coupe d'Europe.
Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Parce qu'en fait, avant que les Qataris arrivent, il n'y avait pas beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain. Et avant Canal et avant tout ça. Donc, la première saison de Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain, Borrelli a eu une idée incroyable. Il nous a proposé de donner 100 francs pour l'Europe. Donc, 100 francs pour l'Europe, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Mais en fait, pour récompenser nos parents, il leur a donné un autocollant qu'il fallait mettre derrière la voiture, et il y avait marqué 100 francs pour l'Europe. Et voilà, c'était
incroyable.
C'était fou. Ce stade était le Parc des Princes. C'est pour ça qu'on est très attaché au stade, parce que ce stade a été on a gagné beaucoup de trophées, mais aussi on a gagné la première Coupe de France, on a gagné la deuxième contre Saint-Etienne. C'était un moment, enfin moi en tout cas pour moi, ça a été ça a été très beaucoup d'émotions.
Les 100 francs pour aider le club, c'est fou.
C'est fou. Voilà. Et puis vous n'avez pas connu, on n'avait pas le droit de fumer, on n'avait pas le droit de manger. Alors il y avait un monsieur qui venait avec des cacahuètes, il s'appelait Momo, il venait avec des cacahuètes, il les distribuait.
Vous jetez des cacahuètes.
Il les jetait sur les joueurs quand ils perdaient.
Mais c'est pas faux, les gens les jeter. Ah ouais, non mais c'était à l'extérieur du stade.
Par contre, tu continues de les manger, les cacahuètes.
Ça
52 ans d'abonnement.
Ouais.
C'est quoi ton plus beau souvenir supporter? C'était l'an dernier à Munich?
Oui, alors après il y a la hiérarchie. Non, il y a un moment qui est très très important.
Quand j'ai marqué un but,
le 2500e. Il a marqué le 2500e du but.
Ouais, mais on s'en fout. Il y a des coupes d'Europe et tout, ça va pas, non?
Pourquoi on s'en fout?
Parce qu'il y a des coupes d'Europe remportées.
Pour revenir à Jérôme.
Moi je le connaissais pas à l'époque quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, mais en fait pour nous c'était je veux pas lui dire parce qu'il est là, parce que c'est mon ami, mais en fait c'était David Ginola qui revenait au Parc des Princes.
Carrément.
Ouais.
Comme l'a dit Pierre Dorian dans un commentaire sur RMC.
Franchement les supporters. Je pense qu'il l'aime encore énormément. Si maintenant il y a une partie des supporters qui comprennent pas grand chose au foot et qui veulent à chaque fois un peu le tailler, mais ça c'est pas très grave, c'est pas important. En fait, Jérôme, c'est un joueur qui a aimé le club plus que beaucoup de joueurs qui sont venus. Et voilà, et c'est bien de lui rendre hommage. Moi, je lui dis là, franchement, il est parmi les vraies légendes du Paris Saint-Germain. Voilà, et pour nous, les légendes, c'est Daleb, Suzy, Kraï. Et enfin, en tout cas, dans mon cœur, il est dans ma légende à moi.
Et le titre de l'an dernier, c'est pas forcément le meilleur souvenir.
Alors, premier, c'est 96.
Ouais.
Voilà. Personne nous attendait, c'était très compliqué, le Paris Saint-Germain était un peu décrié, c'était des années difficiles pour le PSG.
Je confirme.
Alors, et voilà, mais c'est vrai, hein. Moi je vais vous dire la finale à Rotterdam, elle a été difficile à gagner aussi parce que c'est qu'un but.
C'est vrai.
Et Ngoti nous a mis un coup franc phénoménal, et pour nous supporters, voilà, après ça s'est arrêté parce qu'on a fait aussi un back-to-back, mais on l'a raté, et contre Barcelone, et j'y étais. Et en fait, j'ai fait quasiment toutes les finales de Coupe d'Europe. Voilà. Et mais le match, bien sûr, celui de Budapest, celui de
Munich.
De Munich, et pour nous, voilà, ça a été un moment. C'est une consécration. On attendait ça depuis. Alors, je dis pas la création du club, parce que je pense qu'à la création du club, personne pensait gagner la Ligue des Champions. Puis d'abord, ça s'appelait pas la Ligue des Champions, ça s'appelait la Coupe des Clubs Champions. Voilà. Puis il y avait que les champions qui la joué. Donc voilà, c'était un peu restreint. Maintenant, c'est ouvert à, je pense que c'est plus difficile de la gagner aujourd'hui.
Ouais, ouais. Est-ce que t'as la même émotion cette année, ou est-ce que c'est un peu différent?
Ouais. Alors là, l'excitation, elle est bien plus importante cette année.
Ah.
Ouais, parce que
on dit là à 18h.
Ouais, parce que là pour nous.
Non, vaut mieux pas.
Ah bah c'est
là pour nous aujourd'hui, c'est on rentre dans l'histoire.
Ah voilà. Ah bah merci. Ah bah voilà, tu vois Jean-Pierre, on avait raison.
Écoute, je vais
te dire. Tu vois, supporter historique Jean-Pierre,
c'est extraordinaire. Mais il a raison, Philou est un supporter, et je te répète que nous avons réagi, moi en tout cas, j'ai réagi comme un joueur. Bah, c'est pas pareil.
Et puis, moi,
c'est pas la même chose.
Et puis, je voudrais juste que les gens comprennent pourquoi c'est important les verts pour nous, et pourquoi on a.
Il faut qu'ils
comprennent. Parce que dans les années 74, 75, 76, le mercredi, c'était le jour de la Coupe d'Europe. C'était il y avait le PSG, mais aujourd'hui, on aime un club, mais.
Bah, c'était en noir et blanc, c'était pas vert.
Ouais, il y avait la couleur, ça commençait. Mais c'est grâce à lui, et c'est grâce au vert.
Laisse-le parler.
C'est grâce à lui, c'est grâce au vert.
Lui, il dit des choses intéressantes.
Il faut que vous compreniez qu'il n'y avait qu'une chaîne de télévision, que Téléfoot, c'était le vendredi soir, et qu'on avait école le samedi matin, et que c'était très compliqué parce que nos mamans, elles ne voulaient pas qu'on regarde, mais nos papas, ils étaient d'accord.
En 76, t'avais 30 ans déjà.
Et t'as adoré l'OM aussi dans les années 90, la Coupe d'Europe et tout.
Cache pas la séquence,
par respect pour Jean-Pierre Papin, j'étais très content qu'il la gagne pas avec l'OM.
Philou, merci d'être venu, bonne finale demain. Tu vas filer à Budapest dans un instant. La suite de Roten sans flamme, Roten se chauffe. Doit-on s'attendre à une finale fermée demain? À tout de suite sur RMC.
Oh, la belle passe de Vitinha pour Doué.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.